Poussez les portes des laboratoires de recherche avec Sciencez-vous, une série de podcasts dans les coulisses de la science.
Rencontrez des scientifiques des universités de Bretagne occidentale et Bretagne sud ou de l'École nationale d'ingénieurs de Brest.
Sociologie,
géographie,
mathématiques,
océanographie,
chimie ou encore robotique,
Sciencez-vous vous fait explorer toutes les sciences pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Je suis avec Géraldine Leroux, Gabriel Guilcher et Emma Bourges dans le studio de Radio U pour parler du projet OSPAPIC. On va peut-être commencer avec vous, Géraldine Leroux, puisque vous êtes directrice d'OSPAPIC, également professeure d'anthropologie sociale à l'UBO. Est-ce que vous voulez bien nous résumer, nous présenter succinctement ce projet ?
Alors, OSPAPIC, c'est un programme de recherche international sur financement européen, puisqu'en 2023, j'ai été l'heureuse lauréate de ce qu'on appelle une ERC Consolidator, donc un financement du Conseil européen de la recherche, qui m'a permis de constituer ma propre équipe de recherche et donc de recruter sur une période de 5 ans, 2023-2028, à peu près une dizaine de chercheurs, donc des doctorants, des post-doctorants, des chercheurs seniors, et également d'associer des chercheurs et des artistes du monde entier pour travailler sur les pollutions marines et spatiales et la manière dont des artistes parlent de ces pollutions, les représentent, les mobilisent. Et donc, nous cherchons à voir les singularités, mais aussi à faire une analyse comparative de façon à montrer ce que l'art apporte à ces questions environnementales, c'est-à-dire la manière dont des objets historiques, des objets d'art contemporain ou des pratiques artistiques collaboratives éclairent des menaces environnementales et invitent en fait des individus à dire les attachements qu'ils ont à ces territoires non terrestres que sont l'océan et l'espace.
Et est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur la genèse du projet ? D'où est partie cette idée, cette envie ?
Alors, souvent les ERC, notamment les consolidateurs, se basent sur des projets de recherche préalablement menés par le porteur de projet, donc le PI. Et moi, ça fait une dizaine d'années que, à la fois en tant qu'anthropologue, historienne de l'art de formation et commissaire d'exposition, je travaille sur ce qu'on appelle l'art des Gosnets, qui est un mouvement artistique qui a émergé en Australie il y a un peu plus d'une dizaine d'années et qui désigne des objets d'art qui sont principalement faits à partir de filets de pêche, des filets de pêche qui ont été soit qui sont usagés et donnés par des pêcheurs, ou le plus souvent qui sont ce qu'on appelle des filets fantômes en français, donc ghost net, qui sont des outils de travail qui ont été perdus accidentellement par le pêcheur ou volontairement délestés en mer ou sur les strands. Et dans le nord de l'Australie, c'est un gros problème, comme c'est le cas dans quelques autres régions du monde. Et là-bas, des artistes autochtones et non autochtones ont décidé, sur une initiative portée par une patronne pêche, donc une pêcheuse qui a son propre bateau, de ramasser, en fait, de glaner, de collecter ces engins de pêche, dont certains sont énormes, hein, ils peuvent mesurer plus d'une centaine de mètres, peser plus d'une tonne, mais ils se dégradent aussi inlassablement et ils libèrent donc des macro-déchets, des micro-déchets, mais aussi des nanoparticules plastiques. Et donc, les artistes prélèvent ces morceaux ou cette totalité de déchets plastiques et les transforme radicalement. Et l'art des Gosnets, c'est donc un mouvement artistique qui va transformer radicalement l'apparence du filet fantôme. On a parfois l'impression d'être plutôt plus proche de la couture et de la broderie. On a des œuvres d'une grande finesse. C'est presque du textile, en fait, grâce à l'opération artistique. Et cela permet en fait, de visibiliser autrement cette pollution plastique et inviter à parler de ce sujet. Je pourrais, moi, en parler pendant des heures, mais en tout cas, par rapport à OSPAPIC, la méthodologie en tant qu'anthropologue que j'ai mise en place s'est révélée assez efficace. J'en ai tiré un ouvrage qui a eu plusieurs prix. On a monté un certain nombre d'expositions à travers le monde qui ont à chaque fois eu une réception plutôt très positive. Et cet art des Gosnets, il circule dans une grande pluralité de lieux culturels et scientifiques. Ça va de l'aquarium, centre de recherche scientifique, au musée d'art contemporain ou au musée d'ethnologie. Et donc, en fait, on a voulu adapter cette méthodologie à d'autres objets de recherche que sont et la pollution marine et la pollution spatiale, de manière à inviter tout un chacun à réfléchir à ces enjeux socio-environnementaux.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
Et donc l'idée, si j'ai bien compris, c'est d'en faire un livre tactillustré. J'ai beaucoup aimé l'expression. Peut-être qu'on peut quand même en dire un mot et expliquer aussi ce qu'est un livre tactile illustré.
Alors en effet, OSPAPI, qui étant un programme de recherche international sur financement sur 5 ans, a un certain nombre de livrables et parmi lesquels il y en a un, le premier, qui est le livre tactile illustré. Qui part d'une hypothèse que j'ai développée préalablement lors de mes recherches sur l'art des gosnets, et qui, pour le dire simplement et de manière synthétique, c'est quel est l'apport du toucher à la compréhension des œuvres d'art et plus globalement aux œuvres d'art environnementales. Et j'avais pu avoir l'occasion de toucher des livres tactiles. Alors, un livre tactile, c'est ce que vous pouvez donner à vos enfants pour qu'ils découvrent le plaisir de la lecture par le toucher et par éventuellement d'autres dispositifs multisensoriels, sonores par exemple. Mais il y a aussi des personnes malvoyantes et non-voyantes qui ont accès à la littérature et au plaisir de la lecture par le biais de livres tactiles illustrés. Et il y a en France une maison d'édition associative qui s'appelle Les Doigts qui rêvent, qui est l'acteur historique de la fabrication des livres tactiles illustrés, qui a développé une expertise. Et donc, je me suis rapprochée d'eux et c'est devenu un des partenaires d'OSPAPIC il y a de cela 2 ans maintenant. Et ensemble, avec aussi des médiateurs scientifiques et culturels, nous avons cherché à voir comment rendre l'art des gosnets accessible. Alors, Emma, tout à l'heure, va parler de la question de l'accessibilité et de l'inclusivité. Parce qu'il y a de nombreuses théories et scientifiquement, c'est très intéressant de s'arrêter sur ces mots et sur les pratiques qui sont déployées autour de cela. Mais notre objectif, ça a été de façonner un premier prototype. Alors, on n'est pas encore à la phase de commercialisation du livre, on est sur la phase où on a testé des hypothèses scientifiques et ensemble, collectivement, avec des professionnels de la médiation scientifique et culturelle, des acteurs des livres tactiles illustrés à destination des personnes malvoyantes et non-voyantes, des publics des musées et également des artistes, nous avons établi un processus de design participatif qui s'est déployé lors d'une dizaine d'ateliers menés en France et également dans d'autres pays européens, en Italie et en Suisse. Et nous avons en fait ensemble identifié comment raconter cet art des gosnets, comment rendre accessible à tout un chacun cet art des gosnets. Donc en parlant à la fois de la pollution marine, de la question du glanage, donc du collectage des déchets marins plastiques, et également de leur transformation artistique et de leur circulation internationale. Donc comment le faire selon un dispositif multisensoriel.
Et juste avant de donner la parole à Emma là-dessus, étant donné que je suis curieux, je pose les questions aussi. Comment se déroulent ces ateliers et quel était le public ?
Alors, on était sur des ateliers, on va dire, privés, c'est-à-dire qu'en fait, avec nos partenaires, donc en l'occurrence le Muséum d'Histoire Naturelle du Havre et les designers tactiles des Doigts qui rêvent, donc cette maison d'édition, nous avons identifié les besoins des médiateurs, donc du Muséum du Havre, mais également d'autres structures culturelles et scientifiques qui accueillent ou qui exposent l'art des gosnets. Et nous avons cherché à voir comment ce sujet peut être rendu accessible à des personnes ayant d'autres sensibilités corporelles, d'autres expériences sensorielles, qu'elles soient malvoyantes, non-voyantes ou également aussi empêchées de manière motrice ou cognitive. Bon. Et donc ensemble, nous avons testé à chaque atelier des manières de dire cette histoire. Donc nous avons en fait invité les personnes à toucher les œuvres d'art, ce qui est assez rare. Et ça pour nous, c'était très important aussi de rendre accessible à tout un chacun l'œuvre d'art par le toucher, dans le respect de la conservation préventive, donc en dialogue étroit avec les conservateurs. Mais nous avons aussi cherché à rendre, à produire en fait des récits sonores. Et également, Emma, ça va en parler, on a mis en place des dispositifs olfactifs. Donc chaque atelier était différent Et nous, en tant que scientifiques, nous avons collecté aussi le verbatim, c'est-à-dire les mots que les participants, alors ça pouvait être des enfants, ça pouvait être des adultes, avec et sans déficience sensorielle, quelles expressions ils employaient quand ils touchaient pour la première fois soit l'objet d'art, le GhostNet, mais également le matériau brut. Et ils étaient également invités, non seulement à participer à la rédaction et à la création de l'histoire, mais également à avoir une partie plus créative où eux-mêmes étaient invités à s'engager sensoriellement avec le matériau brut et à le transformer.
Alors Emma, je vais me tourner vers vous, enfin façon de parler, puisque vous êtes à distance en visio. Peut-être avant d'essayer déjà de définir ce qu'est exactement un livre tactile, etc., j'ai envie de vous demander, vous, votre rôle dans ce projet-là, puisque vous êtes doctorante en anthropologie et que vos recherches visent à développer les expériences polysensorielles dans les musées français et européens, afin d'accroître l'inclusivité esthétique des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Jusqu'ici, ça va, je ne me suis pas trompée.
Non, jusqu'ici, ça va. Oui, ma thèse, elle est au croisement du coup de l'anthropologie sensorielle et des disability studies, donc c'est les études sur le handicap qui sont regroupées sous ce terme parce qu'elles sont vraiment interdisciplinaires. Ça concerne l'anthropologie, la philosophie, mais aussi l'histoire et la littérature. Et du coup, mon rôle dans ces ateliers, c'était d'observer vraiment si, en multipliant les expériences sensorielles, donc expérience tactile, expérience sonore, expérience olfactive, il y avait une réaction de la part des publics, mais une réaction à la fois cognitive et sensorielle, dans le sens où on venait tester si la perception multimodale fonctionne. C'est-à-dire, est-ce que sortir purement du visuel et avoir plusieurs sens qui sont convoqués, c'est pertinent ? C'est pertinent d'un point de vue cognitif ? Est-ce que les publics comprennent mieux ce qui se passe dans le livre ? Quelle en est l'histoire ? Est-ce que c'est pertinent d'un point de vue affectif, émotionnel, est-ce qu'il y a une expérience esthétique qui se dégage de ça? Voilà, en tout cas, c'était de tester la pertinence de multiplier les sens dans le livre.
Et jusqu'ici, vous en êtes où? Il y a déjà des résultats sur lesquels on peut communiquer ou des pistes, du moins?
Ah oui, on a fait, beaucoup d'ateliers sur un an. Une petite dizaine et on a déjà quelques résultats. Déjà, l'apport du toucher, il est non négociable parce que ça reste quelque chose de très rare encore au sein du musée, puisque le livre tactile, il est destiné à un espace de médiation au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre. Et du coup, ça, c'est quelque chose vraiment de très nouveau. On le voit dans le vocabulaire que les participants ont utilisé. Ils parlent d'avoir la chance de pouvoir toucher les œuvres. Ils disent que ça, c'est très rare. Ils répètent vraiment souvent que dans les musées, on n'a pas le droit de toucher. Donc ça, d'ailleurs, ça a influencé la manière dont on a co-construit le livre, parce qu'on a été obligé d'ajouter des consignes. Cette peur de toucher, cette gêne du toucher, il y avait de la part des participants parfois, oui, c'était pas naturel, quoi. Donc on a ajouté touche ça, manipule le filet, des consignes claires pour justement tous les publics qui n'oseraient pas toucher. Donc ça c'est clair que l'apport du toucher n'est pas négociable. Et puis après, du point de vue multisensoriel, on a ajouté des expériences olfactives et sonores. On a créé des paysages olfactifs qui permettaient de guider un peu l'expérience tactile. Et ça, pareil, l'apport, il est très chouette. On a un triple atout. Il y a l'idée de contextualisation. L'odeur, elle vient aider à la compréhension de l'histoire. L'autre atout, ça va être l'émotion, parce que l'odeur, ça nous transporte immédiatement dans le souvenir. On parle du siège mémoriel de l'odeur. Donc, la rajouter dans l'histoire tout de suite, il y a de l'affect. Et le vecteur de mémorabilité aussi, comme l'odeur, elle n'est pas très utilisée encore dans les musées ou même dans les livres, parce que ça coûte très cher, c'est très compliqué. Lors des ateliers, les gens, quand on les revoyait, ils s'en souvenaient. Donc ça vient marquer leur expérience du livre. Ils disaient vraiment, ils se rappelaient vraiment des odeurs. Et par rapport au livre et à l'histoire qui est racontée par le livre, la première fois qu'on a mis de l'odeur dans un des ateliers, on a voulu construire une ambiance portuaire et du coup on a diffusé une odeur d'essence et ça avait bien marché comme contextualisation. Les participants avaient bien compris tout de suite où ils se trouvaient. Et le paysage sonore, enfin, on en a créé plusieurs, pareil, de paysages sonores, ça avait exactement le même impact, en fait, un impact de contextualisation. Vu le bruit que j'entends derrière, je comprends où je suis. Et puis un impact plus poétique, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas traduire par le toucher. Par exemple, ce serait quoi la matière du vent ? C'est trop difficile à reconstruire. Du coup, là, le sonore vient aider à amener des informations qui ne passent pas forcément dans le toucher.
Et Emma est très humble parce qu'elle laisse entendre que l'apport de l'olfactif est le résultat d'une production collective. En fait, non, c'est son idée. C'est elle qui a souhaité intégrer dans notre dispositif multisensoriel l'odeur et ça a été extrêmement intéressant et très apprécié des participants.
Science et vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U, Radio Calonne et Radio Balise.
Je ne crois pas qu'on l'ait fait, mais peut-être un tout petit retour en arrière. Essayez de donner une définition très simple du livre tactile.
Peut-être qu'on pourrait faire ça. J'avais noté celle qu'on avait donnée aux enfants, Géraldine. Je pense que elle est marrante parce qu'au Havre, on avait fait un atelier avec des petits, non un peu plus grands, peut-être 8-9 ans, mais à Brest, ils étaient tout petits et on leur avait dit qu'est-ce que c'est qu'un livre tactile ? C'est un livre qu'on lit avec les mains. Tactile, ça veut dire toucher. Et je trouve qu'elle est assez directe et assez simple, en fait.
Et en complément, on peut rajouter que le prototype que nous avons récemment reçu a plutôt l'apparence d'un gros classeur, un peu plus qu'un A5, dans lequel il y a du texte, en l'occurrence pour nous du français et de l'anglais. Il y a également du braille qui permet donc de lire pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes qui maîtrisent le braille. Il y a des illustrations tactiles, donc à toucher. Ces illustrations, elles sont texturées, donc le rapport à la matière va faire passer des émotions, comme l'a expliqué Emma, mais on va aussi pouvoir manipuler ces illustrations qui sont en relief, et donc on va pouvoir participer à la narration, éventuellement l'enrichir.
Et alors, ce qui m'intéressait beaucoup aussi dans ce que vous avez dit toutes les deux, c'est, j'ai l'impression, cette espèce de forme qui a été sacralisée de l'art, du musée, on ne peut pas le toucher, j'ai en tête cette fameuse phrase « faut toucher avec les yeux » qu'on nous disait tous quand on rentre dans un musée, quand on est petit. Est-ce que le livre tactile, il vient aussi un peu chambouler tout ça et changer le rapport qu'on a finalement à l'art ?
Oui, tout à fait. C'est l'objectif de ce livre tactile. Donc nous, on l'a conçu comme un prototype donc qui a vocation à être, pendant la phase de co-création, produit collectivement, mais il a aussi ce prototype vocation à circuler maintenant de façon à ce qu'on affine notre cahier des charges et que si on arrive à lever des financements complémentaires, on va en parler tout à l'heure avec Gabriel, eh bien on puisse prendre en compte les remarques des différents usagers parce que Emma va l'expliquer, il y a une pluralité en fait de perceptions et aussi d'habitudes et d'éducation à la lecture et à l'expérience esthétique.
Emma, je pense que tu es invitée à compléter.
Déjà, par rapport à l'expérience de l'art, je pense que la grosse nouveauté avec ce livre, c'est qu'il intègre des matières brutes. Donc, on n'est pas dans de la reproduction, on n'est pas dans de l'imitation, on n'est pas dans de la série où on va prendre des matériaux moins nobles pour le diffuser plus largement. Il y a un choix qui a été fait, mais qui, du coup, renverse complètement la médiation telle qu'elle est faite aujourd'hui. C'est que, en effet, l'exposition de Gosnetz au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre, elle est exposée en hauteur, c'est-à-dire que les œuvres se tombent du plafond, on va dire. Les œuvres originales vont pas pouvoir être touchées, mais du coup, il y a un petit bout de ces œuvres-là qui arrive directement dans le livre avec des filets qui peuvent être manipulés. Et ça, ça, je pense que c'est vraiment nouveau. Et puis, c'est quelque chose qu'on a remarqué pendant les ateliers. Les participants étaient impressionnés et presque émus d'avoir accès justement directement aux matières. Et bon, dans les ateliers, ils touchaient aussi les œuvres originales, donc c'était encore plus intense. Mais ça, c'est quelque chose qui a été vraiment frappant. Oui.
Et donc, du fait de ce retour positif, eh bien, on a été à chaque fois encore plus loin. Donc, par exemple, on a décidé de passer commande à des artistes pour qu'ils intègrent directement dans le livre une œuvre d'art. Parce que comme on racontait que le filet, à un moment donné, était vu, collecté, transformé, que ça devenait une œuvre d'art et que ces œuvres d'art allaient être exposées à travers le monde, eh bien, avec les designers tactiles, on a imaginé, en fait, produire dans le livre une page sur la circulation des œuvres. Et donc, en fait, le lecteur, je ne vais pas trop en dire, mais est invité, en fait, à ouvrir une boîte de transport dans laquelle, eh bien, est insérée une vraie œuvre d'art faite par un artiste. Donc, le livre, lorsqu'il sera vendu et distribué dans les différentes structures, sera enrichi d'un certificat d'authenticité qui va parler, voilà, présenter l'artiste, sa démarche, etc. Pour donner un autre exemple, à un moment donné, on avait les publics des ateliers qui touchaient des tortues naturalisées, en l'occurrence là au Muséum du Havre, mais à Océanopolis, on a eu la même remarque. Et à un moment donné, l'un d'entre eux nous dit « mais il touche, en fait, il est invité à toucher la tortue naturalisée et une reproduction qu'on a faite de la tortue. » Et donc, cette reproduction est en plastique et insère également quelques gosnettes. Et à un moment donné, il nous dit « mais qu'est-ce que c'est plus agréable, cette tortue naturalisée, c'est lisse, et puis avec les écailles, on comprend bien mieux la morphologie, etc. » Et puis, il nous dit « mais est-ce que dans le livre, on ne pourrait pas avoir une illustration de tortue en écailles de tortue ?» Alors, de là, s'ensuit une discussion et donc un transfert de connaissances entre qu'est-ce que c'est qu'une tortue, qu'est-ce que c'est qu'un spécimen conservé dans une collection de muséums, les politiques de protection environnementale, donc le fait que les tortues soient des espèces menacées, donc protégées. Et à un moment donné, on a pensé, en fait, puisque moi, je collabore depuis une dizaine d'années avec des artistes polynésiens qui travaillent beaucoup la nacre, et le CMA, le Centre des métiers d'art de Polynésie française, est un des partenaires d'Aspapic, le partenaire principal d'ailleurs. Et donc, j'ai proposé en fait qu'on soumette aux artistes et aux designers polynésiens l'idée de leur passer une commande pour qu'ils fabriquent en nacre une carapace de tortue pour qu'elle s'insère dans le livre. Et donc, les gens vont avoir la possibilité de ne pas toucher un matériau un peu désuet ou désagréable ou pauvre comme le plastique peut l'être, mais au contraire de toucher un matériau noble qui va leur permettre de mieux comprendre à la fois la biodiversité marine et l'importance du care, du prendre soin de l'océan.
Le livre tactile, vu qu'il est destiné à la médiation au sein de musées, il fait vraiment partie du mouvement actuel qui consiste à repenser le musée dans sa version classique, c'est-à-dire vraiment centré sur le regard. Et du coup, il s'ancre aussi dans ce mouvement où on remarque qu'il y a plusieurs stratégies d'inclusivité muséale. Et on peut en distinguer vraiment deux qui se démarquent. On peut parler vraiment de même deux écoles. Il y a l'école qui a été créée par Howell Corvest. Et donc, les dispositifs tactiles qu'elle propose, ils essayent de reproduire vraiment au plus proche l'œuvre originale. Donc, c'est des illustrations qui sont faites en gravure ou en relief et qui vont reproduire de manière tactile des formes, mais des formes figuratives, et il va falloir reconnaître les formes. Donc, on reste assez dans le visuel. Et ensuite, on a vraiment en opposition à ça, l'école qui est créée par Philippe Claudel, dont je parlais tout à l'heure, et où le dispositif tactile là, ne cherche pas à faire voir, mais à faire sentir une œuvre. Et à la faire sentir généralement en s'adressant à plusieurs sens en même temps. Donc il y a vraiment l'idée qu'il faut décloisonner l'image de sa dimension visuelle pour aller explorer d'autres sens, d'autres univers perceptifs. Et du coup, en particulier, le toucher, parce que Philippe Claudel, c'est donc celui qui a créé la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, qui édite justement ses livres tactiles. Donc, Les Doigts qui rêvent, ils font des illustrations qu'ils appellent de modalités haptiques, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le dessin gravé à plat, mais on est vraiment dans le volume. Les illustrations, elles sont faites avec des matières qui sont souvent mobiles, souvent manipulables. Donc, on sort vraiment de la forme pour aller vers la sensation. Sur l'accessibilité, du coup, la pensée spécifique de l'accessibilité sur laquelle moi, je me repose beaucoup dans mes travaux et qui a été aussi valorisée dans ce projet de livre tactile, elle vient de chercheuses brésiliennes qui s'appellent Virginia Castro et Raquel Guerrero, et qui renverse complètement ce qu'on a tendance à penser comme accessible. C'est-à-dire que, selon elle, pour qu'on puisse parler d'accessibilité, il faut que le dispositif respecte trois volets. Donc, premièrement, il y a l'accessibilité spatiale, c'est-à-dire est-ce qu'on peut rentrer dans le musée, est-ce qu'on peut avoir accès, par exemple, à ce livre tactile. Ensuite, il y a l'accessibilité informationnelle, c'est-à-dire est-ce que le livre tactile il est proposé en braille, en noir ou sonore avec un QR code. Et ensuite, il y a le volet esthétique, c'est-à-dire est-ce que le dispositif il va provoquer un plaisir, il va provoquer une réaction d'ordre affectif, émotionnel, ou est-ce qu'on est purement dans l'informatif, dans l'aspect un peu académique, court. Et selon ces chercheuses, on ne peut pas parler d'accessibilité tant qu'il n'y a pas ces trois points qui sont respectés. Il ne suffit pas de mettre un casque pour qu'on dise que c'est accessible. Et le livre tactile, il rentre, je pense, dans cette définition parce que moi, je l'ai noté plein de fois au sein des ateliers. On a eu des occurrences du terme « beau ». On a eu Chantal qui nous a dit que la tortue, elle était magnifique. Elle a utilisé le terme « magnifique ». C'est ce dont Géraldine parlait tout à l'heure. Et voilà. Du coup, je pense que le livre, on peut le considérer comme accessible.
Poussez les portes des laboratoires de recherche avec Sciencez-vous, une série de podcasts dans les coulisses de la science.
Rencontrez des scientifiques des universités de Bretagne occidentale et Bretagne sud ou de l'École nationale d'ingénieurs de Brest.
Sociologie,
géographie,
mathématiques,
océanographie,
chimie ou encore robotique.
Sciencez-vous vous fait explorer toutes les sciences pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Sciencez-vous, une série de 20 podcasts réalisés en collaboration avec Radio U,
Radio Calonne et Radio Balise et avec le soutien financier de l'ANR.